Je suis ravi de recevoir encore un éminent personnage de la ville de Lançon, Provence. Vous avez déjà entendu tous les reportages que nous avons faits autour de la ville, autour du château, autour de contes en provençal. Aujourd'hui, je reçois Robert Milani. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait ton activité ainsi à Lançon et dans le cadre de cette association ?
Eh bien, voilà, je suis arrivé à Lançon il y a une quarantaine d'années et immédiatement, le village a capté mon attention de par son riche patrimoine. Donc, j'ai trouvé une association qui déjà existait et existait depuis 1971, qui s'appelait la Bergerie à l'époque. Et au sein de cette association, il y avait un club qui s'appelait les Amis du Vieux Lançon, auquel j'ai adhéré très rapidement. Et là, j'ai pu découvrir et travailler pour le patrimoine de Lançon.
Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler d'Antoine de Tretz, un personnage à cheval entre le XVIIe et le tout début du XVIIIe siècle, qui a été pour Lançon de Provence un généreux donateur. Mais qui était donc Antoine de Tretz ?
C'était un parlementaire au Parlement de Provence, écuyer, conseiller du roi Louis XIV, en la cour du Parlement, reçu le 23 juin 1693. Il est aussi le fondateur de l'hôpital de la Charité à Aix, ville dans laquelle il fut baptisé le 31 janvier 1655 en la cathédrale Saint-Sauveur.
Alors, qu'est-ce qu'un conseiller parlementaire, ainsi à la fin du XVIIe siècle, en 1693 exactement, Robert ?
Alors, là, un conseiller parlementaire, il ne faut pas voir un conseiller parlementaire comme le sont nos conseillers parlementaires d'aujourd'hui.
Nos députés, voilà.
Les parlementaires, à l'époque, sont des officiers qui disposent d'une partie déléguée par le roi de France de l'autorité publique. Ainsi, le Parlement de Provence, composé de magistrats royaux, joue d'abord le rôle d'un tribunal d'appel par rapport aux juridictions inférieures, mais peut aussi se prononcer en première instance dans les affaires à caractère politique ou religieux. Il rend aussi des arrêts en matière criminelle. Et le Parlement aussi dispose aussi de pouvoirs administratifs et réglementaires, voire de police, de pouvoirs politiques.
Ils font tout, quoi.
Absolument, absolument tout. Même au titre de l'enregistrement des décisions royales, tout particulièrement le contrôle juridictionnel exercé sur la validité des délibérations des communautés d'habitants, c'est-à-dire d'aujourd'hui la validité des prises de position de nos maires. Souvent, des membres de la haute société, nobles et bourgeois, la plupart d'entre eux tiraient leur richesse des terres et des seigneuries dont ils étaient propriétaires. Et le pouvoir judiciaire qu'ils exerçaient contribuait bien sûr à leur prestige et à leur capacité d'influence.
Mais alors, ok, ça c'est à propos des conseillers parlementaires, Robert, mais quelle relation y avait-il entre cet Antoine de Tretz et Lançon de Provence ?
Ah, eh bien, voilà Alain. Deux familles de ce nom ont habité la ville d'Aix. La première est issue de Bertrand de Tretz, qui était marchand en 1546 et qui a fourni plusieurs avocats au Parlement de Provence et s'est établi, par suite d'une alliance en 1627, en la ville de Lançon. Claire de Tretz, qui semble la dernière de cette famille, épousa à l'âge de 50 ans environ le capitaine Jean-Baptiste de Paul de Lamanon, chevalier de Saint-Louis, domicilié à Malemort. Et là où c'est important, la seconde famille dont il est question ici est originaire de Grasse, d'où Joseph de Tretz, bourgeois, vint se marier à Aix en 1529. Son petit-fils, avocat au Parlement de Provence, se marie, lui, en 1612 à la fille d'un apothicaire de Marseille. De ce mariage naquit un fils, Charles de Tretz, reçu conseiller au Parlement en 1647, père à son tour de deux conseillers, Joseph de Traits et Antoine dont il s'agit là aujourd'hui, Antoine de Traits, qui est décédé sans postérité en 1702. Donc, je vous rappelle, il est né en 1655 et décédé en 1702.
C'est une charge en quelque sorte qui se transmettait quand même de père en fils, d'après ce que je comprends, ce qui n'a pas été le cas pour Antoine de Traits puisqu'il n'avait pas de descendance.
Absolument, ça se transmettait et c'était cette bourgeoisie qui aimait certainement bien le pouvoir et toutes ses capacités d'influence qu'il pouvait avoir à l'époque.
Alors, sans postérité, ça peut peut-être expliquer les choix qu'il a fait, les décisions qu'il a prises, Robert.
Oui, oui, effectivement. Donc, sans enfant, Antoine de Traits a choisi de rédiger un testament solennel dont nous pouvons trouver aux archives départementales d'Aix un dossier manuscrit intitulé « Rôle des 24 orphelins des deux sexes de la Tour d'Aigle, d'Anson et Pélissard ».
C'est intéressant cette histoire. Il a sauvé des orphelins, vous allez nous dire pourquoi. Hein.
Je vais, si vous le voulez bien, Alain, vous faire la lecture intégrale. Bon, c'est pas très long. Et original dans les termes de l'époque.
Avec plaisir,
allez,
Robert.
On y va, je vais vous lire ce document que j'ai sous les yeux. Je charge l'hôpital de la Charité de nourrir et d'entretenir annuellement 24 orphelins de l'un et l'autre sexe, à savoir 8 de chacun des trois lieux, la Tour d'Aigle, Pélissane et Lançon, lesquels, avant d'y être reçus, feront apparoir le mortuaire, c'est-à-dire certificat de décès, de leur père et mère et de l'attestation des sieurs curés, juges et consuls, portant qu'ils sont pauvres et qu'ils ont besoin d'être mis dans le dit hôpital. Si les orphelins ont quelque peu de bien dans leur lieu ou ailleurs, je prie messieurs les recteurs de les arrenter et retirer ce qui pourra rester, les charges des dits biens, payées préalablement pour ensuite faire compte sans intérêt du dit restant aux dix orphelins, auxquels sera donné un métier de tisserand, de cardeur, de cordonnier ou de boulanger dans le dit hôpital. À l'âge de 16 ans ou 17 ans, tel orphelin sera mis dehors, sachant un métier et ayant en main le dit reste pour pouvoir continuer à travailler ou lever boutique dès qu'un des 10 orphelins sera sorti du dit hôpital, soit qu'il en ait l'âge d'en sortir ou qu'il le quitte par légèreté. Comme il arrive souvent, je désire que les sieurs recteurs et que ceux-ci en substituent un autre en voulant que la susdite fondation de 24 places en faveur des 8 orphelins de chacun des trois lieux soit annuellement et perpétuellement exécutée et fidèlement observée. S'il arrivait qu'il n'y eût pas 8 orphelins à chacun des 10, les sieurs curés jugés conçus pourront nommer d'autres enfants ou filles les plus pauvres et les plus abandonnés du secours. Laissant cela à leur conscience, je veux que les orphelines soient mises à la couture et ensuite à la cuisine. Et quand elles auront l'âge d'être colloquées, placées en mariage, il leur sera donné 50 livres pour dotation à leur sortie. Voilà cette belle petite histoire, cette belle initiative d'Antoine de Traits, donc ce généreux fondateur pour lequel Lançon était tenu de dédier une de ses rues principales.
Merci beaucoup. On ne sait pas ce que sont devenus ses enfants, on n'a pas de traces.
Eh bien, on va dire que cette fondation s'est continuée pendant une trentaine d'années encore. Elle s'est perpétuée pendant une trentaine d'années et nous n'avons pas de traces comment tout cela s'est arrêté, cette fondation. Par contre, je peux vous dire que le Parlement de Provence fut définitivement supprimé 3 siècles plus tard.
En tout cas, merci pour cette évocation encore d'un personnage à qui donc on a donné le nom d'une rue à Alençon-Provence. Merci Robert, à la prochaine fois.
Merci à vous.
Mmh.